Bonjour, je suis ravie d'être entre vous. Merci bien l'Institut national du patrimoine et les arts décoratifs. Et je dois remercier Maximilien Durand, qui, sans son enthousiasme, je crois que je ne serais pas là, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Je parlerai en français et mon exposé est en anglais. So, c'est une double acrobatie que j'espère réussir. Je vais présenter la nouvelle exposition permanente du musée qui a révolutionnairement changé radicalement les façons de présenter les mannequinages, l'illumination, l'accrochage, tout qui était un peu du siècle dernier déjà. Il y avait 15 ans qu'on avait une même présentation que quelqu'un dans la salle a déjà vue. On a tout changé, on a changé l'emplacement d'un palais à un autre qui a des espaces plus nets et aussi on a essayé de faire une relecture de la collection du point de vue d'une narration qui est le corps. La dernière exposition permanente, elle parlait de tout, un peu de société, de technique, de tout, des matières, des couleurs, tous ensemble, un peu comme un pot-pourri. Et nous avons choisi pour le moment de faire uniquement un fil conducteur qui est le corps. Alors toute la collection est enfoquée de ce point de vue. L'exposition s'appelle « Le corps vêtu ». Al cos vestit en catalan, el cuerpo vestido en espagnol, dressing the body en anglais. Je m'excuse, il n'y a pas de français parce que déjà ces trois langues sont présentes dans tout le long de l'exposition et ce qui fait que les textes sont beaucoup plus petits. Alors, à l'entrée de l'exposition, on voit des mannequins de musée, des mannequins de couturières qui ont déjà des modifications sur le corps et normalement, on n'expose pas les modifications qu'on fait pour rassembler les corps fictifs au corps réel des personnes. On commence avec trois phrases de Balzac, de Dickens et de Darwin. Et puisque c'est l'année Darwin, je vais lire Darwin. It's certainly not true that there is in the mind of man any universal standard of beauty with respect to the human body. C'est-à-dire ces trois grands penseurs littéraires nous parlent des modifications des corps, des canons de beauté et de la mode. Le projet part d'une recherche, c'est mon PhD, qui s'appelle Modifier le corps. Puis, on a à présent un débat social sur le corps, les maladies qui sont associées au corps, la jeunesse et toute cette extraordinaire attention qu'on fait au corps dans la société occidentale. Puis, on a prévu une nouvelle muséographie qui serait radicalement différente et qui serait en fonction des corps et des mannequins, pas au contraire. Et puis, l'implication des visiteurs pour qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on fait particulièrement et socialement avec les corps. Alors, la phrase qui nous explique l'exposition, c'est « Le vêtement, la robe, modifie le corps », qui veut dire « La robe modifie l'image, l'apparence du corps ». C'est-à-dire que nous n'avons pas une apparence selon nous sommes le corps naturel, mais le corps fictice. Et les visiteurs, et spécialement les jeunes, sont invités à critiquer et à observer la manipulation qu'on a fait à travers de l'histoire du corps, et aussi voir que, puisque ces modifications sont arbitraires, dépendent des canons de la mode, il ne faut pas être esclave ni de son corps, ni de la mode. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'il y a une relation dynamique entre le corps, la robe et les codes moraux, sociaux et esthétiques de chaque époque. L'exposition essaie de répondre trois questions. Quoi, c'est la robe modifie le corps. Avec quels moyens, on explique qu'il y a 5 actions qui sont augmenter, réduire, et puis allonger, définir et montrer. Et ça, on le fait avec 3 éléments, avec 3 instruments qui sont les tissus, les techniques de confection et les structures internes. Comme résultat, on a des silhouettes et des volumes. Et ce qu'on a essayé d'exposer, ce sont toutes les silhouettes et volumes existantes du XVIe siècle jusqu'à l'an 2000. Cela nous définit 3 genres de silhouettes. C'est la silhouette recte, comme un tube, puis la silhouette géométrique, qui a des triangles, des rectangles, des carrés, comme forme, et puis une silhouette anatomique qui suivit parfaitement les contours du corps. Ici, on a 3 exemples. Tubulaire, c'est un exemple de l'année 1925. Puis, une robe de Balenciaga nous montre une structure géométrique qui est géométrique parce que la robe, déjà, est très rigide et la forme de la robe est très raide, aussi très à des trapèzes et une forme pas anatomique. Et puis, à droite, on voit la robe d'Azzelina Laia qui est anatomique puisqu'elle suivit parfaitement les formes naturelles du corps. Je vais expliquer un petit peu les actions que le vêtement fait sur le corps puisque le vêtement, la robe, change les proportions du corps et modifie la relation d'une personne avec les autres personnes, avec les espaces. D'une part, en premier lieu, on augmente de la ceinture jusqu'aux pieds, normalement, il y a des formes qui se séparent très largement la robe du corps naturel. Et ça se fait par les structures internes, telles les crinolines, les tissus rigides ou bien avec les techniques de confection. Puis, la deuxième action, c'est réduire le thorax et la ceinture pour paraître plus mince. Et normalement, ça, on le fait avec les corsets, les ceintures. Puis, allonger, c'est avoir une apparence plus longue de celle qu'on a en réalité. Et ça se fait avec les queues des robes ou bien avec les souliers ou bien les chapeaux. Définir, je ne sais pas en anglais, c'est peut-être poursuivre, je ne sais pas. Définir, c'est adapter parfaitement la robe à la forme du corps, sans le modifier.
Ajuster,
oui, comme la robe de Alaya. Oui. Et puis, révéler, montrer, c'est montrer les parts ou tout le corps entier, tel on a fait en différentes périodes, on montre les bras, on montre les jambes ou on montre le décolletage. Alors on voit des exemples augmentés avec la robe de Balenciaga à gauche, puis le corset qui est réduit, encore une robe de Balenciaga qui a une longue queue, ce qui prolonge l'allure, l'apparence de la personne. Puis définir, vous ajuster, on le voit avec la tunique Delphos de Fortune, et montrer, ici, étrangement, on montre les bras, mais aussi la poitrine, avec la robe d'Antonio Miro. Les 3 instruments que j'ai nommés, ce sont, en premier lieu, les tissus. C'est très différent de choisir un tissu qui soit complètement raide, rigide, et qui n'a, comme des velours ou des tissus qui ne sont pas moulables, non, qui ne s'adaptent pas à la forme du corps, ou bien des tissus flexibles comme une gauze, un tulle, ou des... Je ne sais pas le nom. Bon. Puis les méthodes de confection, des robes qui ont beaucoup de pièces qui sortent, par exemple les volants, la passemannerie, les brocans, tout ça aussi aide à faire une forme plus volumineuse, ou bien les méthodes qui sont comme des tuniques qui pendent des épaules qui sont complètement tubulaires. Et puis en troisième lieu, les structures internes, les crinolines guardinfantes au XVIe siècle en Espagne, puis les corsets, les ceintures, les soutiens-gorge, tout ça, ça modèle aussi la forme du corps. Donc, on a des exemples. La sélection des tissus. On voit à gauche une robe extrêmement raide, c'est fin du XIXe siècle. Puis, au contraire, une robe de Miyake qu'on a dans l'exposition, qui est vraiment quelque chose de très fin et très souple et qui s'adapte parfaitement aux formes du corps. Puis, on a la confection, avec une robe verte de Santa Eulalia qui était haute couture aux années 50, et par contre un t-shirt de Cousteau d'Alma de Barcelone. Et puis les structures internes, on a une belle collection de crinolines que vous allez voir. L'exposition est divisée en 7 salles, 7 périodes, qui ont à voir avec les formes du corps. Si on le libère ou on le comprime, c'est déjà des agrupations qu'on fait et qui, surtout, en général, sont 16e, 17e, 18e siècle, on comprime, puis il y a la Révolution française, on libère, puis la bourgeoisie comprime à nouveau les corps au 19e siècle. On a une petite parenthèse à la Première Guerre mondiale de libération. Et puis, avec le New Look et Christian Dior, on retourne à un corps historique comprimé. Et puis, la troisième libération, c'est les années 60, Peace and Love, les hippies et tout ce qui comporte, montrer le corps. Et finalement, on a un septième période qui est un peu la mélange de tout. Compression et libération, et aussi occultation du corps. Ici, on voit une vitrine des majos. Je ne sais pas si vous connaissez les majos. Au commencement du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, il y a les nobles qui se sont vêtus comme les classes populaires de Madrid et d'Andalousie qui ont devenu comme un idéal romantique comme une beauté naturelle. C'est un courant qui a influencé toute l'Europe. Ici, vous voyez une vitrine avec les crinolines. On a une belle collection de crinolines et on a pu faire une évolution des formes de la crinoline, de celle qui est complètement circulaire à celle qui devient déjà avec une queue. Ça, c'est la vitrine de Balenciaga. Vous voyez quand les vêtements sont choisis du point de vue de sa forme. Il y a, c'est un peu un catalogue de formes. Puis, pour la muséographie, on a des différents éléments. Les installations scénographiques, les vitrines, le timeline et le vidéo. Les installations scénographiques commencent avec les mannequins tout nus que vous avez vus, les mannequins de couturière du musée, et finissent aussi l'exposition avec des mannequins de musée, parce que le musée est un réflexe de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire, on met aussi des prothèses aux mannequins, comme au corps naturel, pour faire sustenter les robes. Puis, il y a les vitrines. Et on a un double parcours. On peut voir uniquement des vêtements dans des vitrines et parallèlement, on a le timeline qui est une contextualisation de textes et d'images. Et puis, dans le vidéo, on montre les actions en mouvement parce que quand on dit augmenter, il faut dire qu'est-ce qu'on augmente. On augmente quoi? On augmente de ceinture jusqu'aux pieds, on augmente les épaules, on augmente les bras. Alors, on a choisi des films de l'histoire du cinéma qui montrent chacune des actions avec, par rapport à quelle part du corps on modifie. Quand on dit on réduit quoi? Alors, la ceinture, on a pris des morceaux d'un film qui montre New Look, puis le thorax, un film sur le 18e siècle. Ce sont des tout petits classifications, mais qui aident à comprendre le concept. Ça, c'est les installations scénographiques. Et puis, vous verrez à la fin qu'on retrouve encore les mannequins, les vitrines. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi des robes qui sont toutes de silhouettes différentes. Ici, ce n'était pas si important, les textures, les couleurs. C'est aussi important, mais ce qui est important, c'est de montrer toutes les variations de forme des robes pour faire comme un catalogue de formes. Alors, les personnages sont en relation entre eux, mais ce n'est pas une scénographie réaliste. Et aussi, les cartels expliquent le corps et les actions que chaque vêtement en concret fait sur le corps. Ce qu'on a fait, c'est créer un pattern ou une norme ou un index de l'exposition qui sont 4 personnages et une image, comme vous voyez ici. Cet index, c'est un podium élevé dans chaque vitrine qui nous explique la clé, qui nous donne la clé de lecture de toute l'exposition. Alors, d'abord, vous voyez un mannequin à droite qui est, nous montre quoi, qu'est-ce qu'on fait, la modification anatomique. C'est un mannequin articulé et on peut voir parfaitement quand il y a une crinoline ou un focule, qu'est-ce que l'image du corps qu'on a avec le vêtement. Puis on a un autre mannequin qu'on a fait à Paris, Carmelo Tini l'a fait, qui nous montre les prothèses, qu'est-ce qu'on met pour avoir cette forme. Et c'est un mannequin en carton, vous voyez le deuxième qui a un corset dans ce cas. Puis le troisième personnage, c'est le protagoniste, c'est l'exemplaire du vêtement de l'époque. Et puis, étrangement, aussi, on a un habit beaucoup plus haut, un mannequin beaucoup plus haut qui est doré, qui est la référence. C'est-à-dire, au XXe siècle, au XXe siècle, on a des habits qui nous ressemblent beaucoup par la forme, les habits, en ce cas du XVIIIe siècle. Ça, c'est un habit de Pertegas qui vraiment réduit le thorax et amplifie les hanches. Mais comme on est au XXe siècle, on montre les jambes. Non? Et finalement, l'image nous donne le complet de l'allure d'une époque. Ici, vous voyez une autre vitrine, la romantique, et vous voyez les différents personnages. Mais en bas, vous voyez comment on modifie anatomiquement, dans chaque période, le corps. Et puis la montre du mannequin en bois pour les prothèses. Si vous voyez la vitrine du XVIe et XVIIe siècle, c'est toujours les 4 personnages qui nous montrent un peu qu'est-ce qui est important par rapport à la forme, la silhouette et le volume dans une époque. Encore un exemple, la Révolution française. Et ici, on compare la ceinture qui monte de la chemise de la Révolution, on la compare avec un vêtement où la ceinture descend, c'est-à-dire c'est la modification du niveau de la ceinture, ce qui nous intéresse ici. Il n'y a pas de prothèse, vous voyez, et uniquement le mannequin articulé fait monter la ceinture. Ici, vous voyez 1850, la crinoline, le petit corset. Et dans le mannequin articulé, vous voyez que les hanches sont beaucoup plus hautes et la ceinture est très étroite. Ici, vous voyez la vitrine, toujours le pattern, la vitrine avec les 4 personnages. Ces vitrines sont beaucoup plus longues et ont beaucoup plus de robes. Mais j'aimais vous montrer un peu la muséographie qu'on a utilisée pour faire l'exposition plus pédagogique. Qu'est-ce qu'on a fait avec les mannequins? Puisque ces robes, en général, appartiennent à des personnes réelles et non pas à des modèles, ces robes ne sont pas de défilés, mais de personnes qui les ont fait faire sur mesure. Alors, il fallait étudier le corps exact de la personne et le reproduire dans le musée. On avait uniquement des mannequins de couturières dans le musée, ce qui faisait que pour les vêtements historiques, ça fonctionnait, mais pas pour les, ni pour les hommes, ni pour les vêtements du XXe siècle, dont les personnes sont beaucoup plus hautes. Pour les hommes, jusqu'à présent, on avait des mannequins avec sans jambes, uniquement avec une tige. Alors, c'était très étrange. Ça ne rappelait pas un cos. C'était comme, je ne sais pas, comme une poupée ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est acheter des mannequins de série. Mais, par exemple, pour le XVIIIe siècle, on a acheté des mannequins d'enfants, de maintenant, de 12 ou 14 ans. Les majos que vous avez vus, c'était tout petit. Alors, on ne pouvait pas employer des mannequins d'adultes. C'était des mannequins d'enfants. Ce sont des mannequins sans tête, parce que notre vue part vers la tête quand il y a une tête, sans coiffure. Ils sont très simples, sans gestualité. Et ce qui est important, c'est vraiment qu'ils s'adaptent à la forme du vêtement. Si vous avez vu au XVIe et XVIIe siècle, on n'avait pas la robe complète. Alors, on a fait des reproductions neutres en coton pour montrer que vraiment, il s'agissait d'une forme concrète. Parce que normalement, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était de présenter, par exemple, une cape ouverte en deux dimensions. Et les gens ne comprenaient pas comment, au XVIe siècle, on portait cette cape. On la portait sur une épaule. Non, maintenant, on le voit sur le musée. Ici, on voit quelques exemples. C'est un homme de l'époque de la Révolution française sur un mannequin d'enfant, parce qu'il était tout petit. Et puis, une robe romantique sur un mannequin de couturière. Vous voyez les petits pieds en bois, les trois petits pieds en bois. Ici, vous voyez le détail du carton. Le mannequin doré, qui est la référence, avec une robe de Pedro Rodriguez, haute couture, et puis un mannequin de série pour une robe de Balenciaga. Avec la lumière, on a étudié que les formes, les silhouettes, soient parfaitement avec un contour précis. Alors, il y a un cyclorama, c'est-à-dire une lumière dans une caisse de lumière en arrière qui montre les silhouettes parfaitement en deux dimensions, mais ce n'était pas le cas, il fallait trois dimensions. Alors on a mis des petits focus sur chaque robe pour que les deux fassent un contraste et puissent montrer parfaitement la forme et puis toutes les nuances, les textures, les couleurs des robes. Et aussi, il y a un jeu de miroir. On double les vêtements avec des miroirs, on double l'espace, ce qui n'est pas mal. Mais surtout, il y a un jeu que la personne se demande, et qu'est-ce que je fais avec mon corps? On pense, maintenant, le corps est libre, mais ce n'est pas vrai, parce que le corset est passé du corset réel au corset mental. Alors, qu'est-ce que je fais, non? À chaque époque, il faut dire, oh, ça c'est très étrange, mais moi, qu'est-ce que je fais? On voit des exemples, des salles avec des miroirs. Ça c'est la salle de haute couture des années 40-50 avec de Balenciaga, Pedro Rodriguez, la robe de Christian Dior en protagoniste. Et finalement, devant toutes ces vitrines, il y a le timeline qui explique dans chaque période les actions principales, réduire, augmenter. Un petit texte en bas explique qu'est-ce qu'il faut dire augmenter au 19e siècle, au 18e siècle, et puis les images en haut des silhouettes et aussi des structures qui permettent de monter. Finalement, il y avait un problème de finir l'exposition et on disait qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre corps. Il y a la chirurgie esthétique, les piercings, toutes les modifications sur la peau et à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que c'était un peu étrange de finir avec des robes. Alors on a projeté sur des mannequins des phrases de philosophes, de médecins, designateurs. Et vous voyez ici deux phrases, mais il y en a beaucoup plus, qui disent « The body is not a subject, but as object, not as an object of desire, but an object of design » de Serlac. Puis Yamamoto qui a dit « When I see how important the body has become, the triumph of cosmetics and plastic surgery, I wonder if clothes are still necessary. » So, c'est une question pour les musées de la mode. Et ça, c'est un peu l'image finale. On a mis les mannequins, on n'a pas mis les prothèses, mais les lignes de chirurgie esthétique, telles qu'on les a trouvées à Internet, on les a projetées parce qu'ils sont très semblables aux lignes des patrons qu'on utilise en haute couture.